Bien malgré moi, j'étais en train de poser un nouveau problème à l'administration de la prison de la Santé. Le jour de mon arrivée, le directeur m'avait fait parvenir les quelques dizaines de lettres qui m'étaient destinées et qui m'avaient précédé. Je l'avais remercié et avait consulté ses missives d'encouragement et de soutien. Mais depuis, le phénomène s'était considérablement amplifié. Les lettres arrivaient désormais par centaines à la Santé comme à mon bureau. Cela devenait ingérable. Je ne pouvais stocker les sacs de courrier dans ma cellule et il m'était impossible de prendre connaissance de tous ces messages. De surcroît, nombre de missives étaient accompagnées de présents divers, de livres, de photos, de chapelets, de dessins, de peintures. J'avais reçu pas moins d'une vingtaine de Bibles. Le nouveau prix Goncourt me fut envoyé après 30 exemplaires. J'étais submergé d'autant que je tenais à répondre à chacun le mieux possible. La tâche était insurmontable, en tout cas tant que je me trouvais enfermé. Au cours des parloirs, mes avocats me montraient chaque jour des dizaines de lettres, parmi les plus significatives ou celles d'amis que je connaissais personnellement. J'ai pu mesurer à cette occasion la profondeur des racines chrétiennes de la France et l'importance des sentiments religieux, y compris chez ceux qui m'écrivaient sans être visiblement des pratiquants réguliers. Mais dans l'épreuve que je traversais, les personnes qui m'aimaient et voulaient me le dire pensaient que la consolation viendrait de la transcendance ou des forces de l'esprit, pour reprendre la belle formule de François Mitterrand. J'ai plusieurs fois eu les larmes aux yeux en lisant ces lettres. C'était au sens littéral du terme absolument bouleversant. Cet élan d'amour me régénérait et donnait même un sens à toute ma vie politique. Je n'avais donc pas fait tout cela pour rien. La force de ces liens, de ces sentiments, de cet attachement signifiait beaucoup pour moi. La politique souffre tellement d'être désincarnée. Elle ne peut être pratiquée mécaniquement. On ne peut pas la vivre à moitié. Il faut être capable de tout donner pour être en situation de recevoir beaucoup. Durant les campagnes que j'ai menées, je me suis souvent mis en danger. Je donnais tout. Je voulais cet échange de sentiments forts. Tout, sauf l'indifférence. Je ne faisais pas une carrière dans la fonction publique, avec l'assurance de retrouver une place en cas d'échec. Vaincre ou mourir avait un certain sens pour moi, qui venait de si loin et qui voulait aller si haut. Susciter ces sentiments donnait une forme de cohérence à tout ce que j'avais voulu construire durant ma vie politique, y compris lorsque j'avais échoué. J'ajoute que j'ai été frappé par la connaissance qu'ont les Français de cette affaire libyenne complexe, dont les méandres étaient parfois difficiles à saisir, même pour moi, pourtant concerné au premier plan. Malgré cela, dans de nombreuses lettres, mes interlocuteurs disaient leur incompréhension du jugement rendu par le tribunal correctionnel, leur colère. Le mot revenait souvent, devant l'absence de preuves et l'énormité de la sanction. Des détails de la procédure étaient mis en avant, montrant l'intérêt que beaucoup de Français avaient porté à cette saga judiciaire. La France est sans doute le pays le plus politique au monde. Les Français saisissent tout, comprennent tout. Inutile de leur mentir. Leur capacité de discernement est sans limite. Je le constatais chaque jour davantage. Au milieu de toutes ces missives, je trouvais un message rempli d'affection adressé par Christine Lagarde depuis Sofia, la capitale bulgare. La patronne de la Banque Centrale Européenne avait profité d'un moment libre pour visiter l'église Saint-Nicolas, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y avait la photo d'une fresque peinte sur les murs de l'église. Il s'agissait de Saint-Nicolas escorté par des anges et d'une représentation de Jésus-Christ. L'ensemble paraissait exceptionnel. Les couleurs avaient même résisté à la photocopie, qui n'est pas le meilleur moyen de mettre des chefs-d'œuvre en valeur. Christine Lagarde, dont j'ignorais jusque-là les convictions religieuses, confiait dans son message qu'elle avait prié pour la liberté, pour la justice, la vraie, et pour l'amour qui vous tient debout. J'ai aimé ce mot si personnel, original et profondément sincère. Je n'avais pas besoin de cela pour considérer Christine Lagarde comme une amie chère. Sa sensibilité et sa délicatesse me touchaient une fois de plus. Pouvoir compter sur des amis comme elle me donnait beaucoup de force. De surcroît, cela tranchait tellement avec l'absence de quelques autres. J'ai gardé l'enveloppe. Elle venait de Bulgarie. Le pays de ces malheureuses infirmières martyrs, c'était un beau symbole ou un nouveau signe. Je reçus également une lettre qui me fit d'autant plus plaisir que je ne m'y attendais vraiment pas. Elle venait de la famille Chirac, au grand complet. Les signataires étaient Bernadette, Claude et son mari, ainsi que Martin, le petit-fils de Jacques Chirac. J'ai toujours pu compter sur l'affection de Bernadette. Ses mots de soutien n'étaient donc pas une surprise. En revanche, mes relations avec Claude et son mari étaient polaires depuis que j'avais choisi de soutenir la candidature d'Édouard Balladur en 1995. Claude l'avait vécu comme une trahison. Je pouvais la comprendre. À l'image de son père, à qui elle ressemble tant, elle avait la mémoire acérée. C'était pourtant elle qui avait tenu la plume pour ce courrier manuscrit très personnel et profondément sensible. La famille Chirac me disait combien ils étaient choqués par la façon dont j'étais traité. Ils me souhaitaient le courage nécessaire et voulaient exprimer leur affection sincère. Leur démarche m'a touché plus que je ne l'aurais imaginé. En lisant ce courrier, beaucoup de souvenirs que j'ai partagés avec Jacques Chirac et Claude me sont revenus. Quelle que fût l'âpreté de certains de nos affrontements, j'ai senti, en lisant cette lettre, que nous étions faits du même bois, du même sang, que nous avions cherché à vivre avec la même intensité. J'ai compris qu'au-delà de nos différences, nous étions de la même famille de cœur et d'énergie, celle des gens qui ne peut vivre que passionnément. Quand je n'avais pas de parloir dans la journée avec ma famille, le temps s'étirait, interminable. Heureusement, mon travail d'écriture m'occupait, mais après 7 à 8 heures de celui-ci, la lassitude commençait à me gagner. Je pouvais me lever de mon bureau, faire 3 ou 4 pas dans ma cellule, le tour en était vite fait. J'avais pris l'habitude de la visite vespérale quotidienne du directeur de la prison. Il ne dérogeait jamais à ce qui était devenu une tradition. Vers 18h30, il arrivait à l'étage de l'isolement, se dirigeait vers ma cellule, où le surveillant l'introduisait. Il prenait le seul siège de l'habitacle, je m'asseyais en face de lui sur le lit, et nous échangeions durant 20 minutes. C'était un interlocuteur agréable, ouvert, modeste, intelligent. Soit il avait caché son jeu à mon arrivée à la santé, où j'avais trouvé sa personnalité assez effacée, soit tout simplement, je m'étais trompé et avais été une fois encore trop rapide dans mon jugement. Au fur et à mesure de nos conversations, j'avais appris à mieux le connaître et à apprécier son caractère. Il n'avait été nommé que très récemment à la tête de la prison. Nous étions quasiment arrivés ensemble. Lui en septembre, moi en octobre, cela créait un lien. Il avait passé sa vie entière dans l'administration pénitentiaire. C'était une véritable vocation. Il voulait rendre cette épreuve de l'enfermement la plus acceptable humainement pour tous les détenus. Cette ambition était louable. Il la mettait en œuvre comme un sacerdoce, avec calme et sang-froid. Il me dit avec fierté qu'il avait réussi tous les concours de la profession de directeur d'établissement pénitentiaire, sous-entendu, il ne devait sa promotion qu'à son travail. Cette remarque me poussa à l'interroger sur un éventuel engagement partisan qui aurait pu être le sien. Sa réponse fut empreinte d'humour et de bonhomie. « Votre question est un peu indiscrète, mais si vous consultez Google, vous trouverez que j'ai été, il y a quelques années, candidat socialiste suppléant aux élections départementales dans le département de la Gironde. Ce fut une expérience qui m'a beaucoup intéressé, mais que je n'ai pas poursuivi, ayant été muté ailleurs que dans ma région d'origine. » J'étais intéressé par sa confidence, qui faisait écho à son engagement dans l'administration pénitentiaire. Je comprenais mieux son humanisme, qui l'avait conduit à rester évasif quand je l'avais interrogé sur le profil des trois détenus qui m'avaient menacé lors de ma première nuit en cellule. Il s'était alors contenté de m'expliquer qu'il s'agissait de délinquants sans qu'il n'y ait rien de particulier à en dire. J'appris par la suite que cela n'était pas tout à fait exact, puisqu'il s'agissait de délinquants chevronnés. C'était passionnant pour moi de rencontrer et d'échanger avec un fonctionnaire qui, comme tant d'autres, se trouvait de gauche, sans conviction religieuse et très attaché à son métier et à la façon de l'exercer. J'appris, grâce à nos échanges, que sa femme, qui travaillait dans le privé, avait un engagement syndical. Cela venait achever le portrait d'un couple fier de ses engagements professionnels comme de ses convictions. C'était très respectable. Malgré nos histoires et nos références, visiblement assez éloignées, nos discussions étaient faciles et même fluides. J'ai toujours aimé me nourrir des différences, saisir ces moments rares d'échanges sincères, rencontrer des interlocuteurs pas spontanément en accord avec mes propres convictions. Cela me permettait de mieux embrasser les contradictions françaises et la variété des attentes et des croyances de nos concitoyens. Dans le passé, ce fut par des rencontres comme celle-ci que je compris la nécessité du rassemblement et que je proposais l'ouverture lorsque je fus au pouvoir. La France n'est pas composée d'un seul bloc, d'une seule sensibilité. Une famille politique, aussi large soit-elle, ne peut, à elle seule, épouser une si vaste diversité. La question n'est pas simplement de rassembler son camp ou son parti, elle est de rassembler la France dans sa multitude, sans affadir ses propres convictions et sans faire le « en même temps » qui ne fonctionne pas, comme on le constate malheureusement aujourd'hui. La noblesse de la politique est dans le travail de détricotage de cet écheveau emmêlé. Sortir de ces contradictions pour fixer une ligne droite. C'est pourquoi la politique, contrairement à ce qui est souvent affirmé, n'est pas l'art de l'écoute, mais celui de l'interprétation, ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. J'ai été heureux de ces discussions avec cet homme qui n'avait sans doute jamais voté pour moi, avec qui j'avais vraisemblablement bien des différences d'opinion et que le destin avait mis sur ma route. Il n'y avait en lui aucun sectarisme. Il était particulièrement affable et tranquille. Ce fut un compagnon de prison aussi inattendu qu'agréable. Lui aussi a compté dans le bon déroulement de l'épreuve qui m'avait été imposée. Dans ce genre de situation, il n'y a pas de petites attentions ou de détails accessoires. Tout compte pour que l'enfer soit supportable ou insupportable. Grâce à ses collaborateurs, et lui, il était devenu supportable. J'ai souvent réfléchi au moment de la journée ou de la nuit qui était le plus difficile à vivre en prison. Bien sûr, cela dépendait des journées et des nouvelles, bonnes ou mauvaises, qui les ponctuaient. Il était si aisé de passer de l'euphorie à la mélancolie au gré des humeurs et des vagues à l'âme de mon esprit. La concentration était absolument nécessaire pour tenir et ne pas accepter de se laisser dériver. Mais à la réflexion, les fins de soirée étaient sans doute les plus dangereuses du point de vue du moral. Le matin au réveil, je me disais qu'une nuit de plus venait de passer. J'avais en tête mon programme d'écriture, de lecture et un jour sur deux le parloir avec Carla et les enfants. Cela donnait une perspective. J'étais assez en forme. Ensuite, il y avait l'heure du sport, où je devais mobiliser toute mon énergie pour ne pas renoncer à cette activité physique indispensable. Je n'avais jamais envie avant, j'étais toujours apaisé après. Mais l'après-midi était long, si long, surtout quand il n'y avait pas de parloir. Et lorsque le soir arrivait, seul dans cette cellule, les perspectives pouvaient paraître sombres. C'était le moment le plus dur. Je ne dînais pas. Se mettre à table seul m'était inenvisageable. Je prenais ici ou là quelques encas, rien de très copieux. Les programmes de la télévision n'étaient pas toujours passionnants et de surcroît, je ne suis pas un grand adepte du petit écran. Fort heureusement, comme je l'ai indiqué, la fatigue constituait une alliée précieuse. Elle s'abattait sans crier gare et m'obligeait à m'allonger abruti par la longueur du temps passé. Je priais pour tomber dans un sommeil qui ferait passer les heures plus vite parce que sans conscience. C'était aussi le moment où je n'entendais plus les surveillants devant ma porte. La majeure partie du personnel était rentrée chez elle. Il n'y avait personne d'autre que les deux policiers avec qui il m'était interdit de partager des moments d'amitié ou de complicité. Je respectais scrupuleusement cette règle pour n'embarrasser personne. Le silence régnait à mon étage, où tout demeurait immobile. Je ne savais pas ce que faisaient les autres détenus. Le bruit redoublait à l'extérieur. J'entendais les prisonniers s'apostropher de cellule en cellule. On aurait dit que la prison s'éveillait à la nuit tombante, sauf à l'isolement, où chacun demeurait terré dans son univers clos. Il fallait s'y faire. Ce n'était pas le plus facile. Des échos de rap scandés montaient parfois jusqu'à mes fenêtres. Cela ne durait pas très longtemps, mais on disait beaucoup sur les choix musicaux majoritaires à la santé. En lisant les nouvelles du jour, il m'arrivait de retrouver mes réflexes politiques. Mais pourquoi fait-il ceci? Comment peut-il affirmer cela? Telles étaient mes réactions. Toujours suivi de la pulsion du téléphone pour conseiller, aider, avertir, protester. Puis je sortais de mon songe, oubliant que j'étais devenu injoignable, intouchable, inatteignable. Cela ne faisait que 17 jours. Il me semblait qu'il s'agissait d'une éternité. J'étais en train de faire l'expérience utile de la relativité. J'avais conscience qu'elle était la première marche vers la tolérance. Faire des progrès en la matière ne pouvait qu'être salutaire. Je reçus de la greffière de la prison une nouvelle dont je n'arrivais pas à interpréter le sens profond. Mes avocats avaient adressé à la procureure générale une demande de sortie exceptionnelle pour que je puisse voir mon petit-fils, né une dizaine de jours auparavant. Cette dernière suivait toutes ces questions et délivrait les permis de visite. Je ne reçus la réponse négative à ma demande que le jour où ma visite était prévue. La missive était administrative et assez sèche. Il n'y a ni nécessité, ni urgence, justifiant cette sortie. Bon, certes, il n'y a jamais un tel sentiment pour un petit-fils de 10 jours qui a la vie devant lui, mais les liens affectifs peuvent et doivent être pris en compte. Il ne l'était pas pour l'occasion. Cela me peina. Mon fils Louis, ma belle-fille, brûlaient de me présenter leur premier enfant. De ce point de vue, c'était une bien mauvaise nouvelle. D'un autre côté, et après la présentation de cette demande, la date de l'audience qui devait statuer sur ma remise en liberté avait été fixée 5 jours plus tard. La greffière gentiment me fit remarquer. « Bah, c'est peut-être un signe positif. » Sous-entendu, pourquoi vous donnerait-on un droit de sortie exceptionnel alors que vous pouvez être libéré dans quelques jours? À l'affût de toute bonne nouvelle, je me rangeais à cet avis autorisé. Je ne protestais donc pas et me résignais à ne pas insister davantage. J'étais bien conscient cependant qu'il fallait que je prenne garde à ne pas me considérer comme coupable de quoi que ce soit, à intérioriser en quelque sorte ma culpabilité, car c'était le danger avec le temps qui passait. À force de subir des injustices, on peut finir par les trouver normales, voire par se sentir gêné d'exiger ce qui, en définitive, n'est que son droit. Celui de ne pas être coupé de sa famille. Cela ne me paraissait pas être une demande inacceptable, alors que je ne représentais pas un danger majeur pour la société, ce qui était le moins que l'on puisse dire. C'est d'ailleurs l'un des principaux problèmes avec la prison. Lorsqu'on se retrouve dans un lieu où sont regroupés tant d'assassins, de malfaiteurs et d'escrocs en tout genre. Il est assez naturel d'être affecté par l'ambiance générale de culpabilité et par l'image que la prison vous renvoie de vous-même. Si je n'y prenais garde, je pouvais finir par me sentir coupable. Rien que par la contamination extérieure. Ce phénomène psychologique est bien connu. Or, à nouveau, j'affirmais mon innocence et ma volonté de la démontrer. Il fallait donc veiller à ne pas céder à cet effet pervers qui, pour être intellectuel, n'en était pas moins redoutable. Au fond, baisser la tête est un mouvement plus naturel pour l'être humain que celui de la tenir droite. Nous étions le vendredi de ce que j'espérais être ma dernière semaine à la santé. J'essayais de demeurer calme et organisé. Il fallait respecter mon rituel et ne pas se dérégler, si proche de ce que j'imaginais être le but. La nuit précédente avait été particulièrement agitée. Un détenu s'était blessé à la tête sans que l'on sache si cela était volontaire ou non. À l'hôpital Cochin, où il fut transporté pour être soigné, le médecin avait demandé que les menottes lui soient retirées. C'est à ce moment que l'homme avait eu la mauvaise idée de tenter de s'enfuir. Une course-poursuite s'était engagée dans les couloirs de l'hôpital. Le détenu avait finalement été rattrapé et ramené à la santé dans un grand état d'agitation. De 4 à 6 heures du matin, le malheureux n'avait cessé de protester, de hurler et de manifester son désespoir et sa colère de la façon la plus bruyante possible. Il devait se trouver au quartier disciplinaire, juste en dessous du mien. Il était difficile de dormir dans ces conditions, tant le bruit était prégnant. De surcroît, ses cris étaient déchirants. C'était assez bouleversant. Cela me conduisit à réfléchir à la misère humaine, à la désespérance profonde et au sentiment d'abandon que devait ressentir cet homme. J'ai éprouvé une sincère commisération pour lui. J'ignorais tout de ce qu'il avait fait, mais la compassion m'a paru être le sentiment le plus adapté, en tout état de cause, bien davantage que l'énervement d'avoir un voisin bruyant. La prison était en train de modifier certaines de mes réactions naturelles, j'espérais, pour le mieux. Ce n'était pas la première fois que je sentais la prison s'agiter la nuit. La veille déjà, une bagarre assez sonore avait éclaté. 5 détenus s'étaient acharnés sur un autre. Au lieu de se sentir comme des compagnons d'infortune, dont l'intérêt aurait été de se serrer les coudes, la nature de l'homme et ses penchants pour la violence et l'agressivité, avaient fait que les 5 agresseurs s'étaient ligués contre le 6e. Un surveillant me confia que ce dernier s'en était sorti à moindre mal grâce au réflexe qu'il avait eu de se protéger la tête alors que les coups tombaient de toutes parts. La violence la plus inhumaine était la réalité quotidienne de ce lieu dont on attend, à l'inverse, qu'il prépare à la réinsertion des délinquants. Cela me paraissait assez mal parti dans ces conditions. Les 5 furent condamnés à 30 jours au quartier disciplinaire. Dans quel état psychologique en ressortirait-ils ? On pouvait craindre le pire. Ni les questions posées par cette violence, ni les réponses à y apporter ne sont évidentes. Je me fis la promesse d'avoir à ma sortie une parole désormais plus élaborée et moins caricaturale que celle que j'avais pu tenir dans le passé sur tous ces sujets.